Chers amis d'Agora Côte d'Azur, bonsoir. Voici Opéra Gora, émission sur l'opéra, présentée par votre serviteur Christian Segarici. Émission mise en onde par Nancy Zottier. Ce soir, nous retournerons sur les pas de Don Giovanni, déjà évoqué l'an passé, mais nous nous approfondirons. Nous approfondirons notre recherche sur ce chef-d'œuvre. Auparavant, en tant que diffuseur d'informations musicales liées à l'opéra, je vous présenterai ce soir mon ami Guy Bonfilio, baryton, metteur en scène et président d'une nouvelle association d'opéra, Opéra Zur, qui nous parlera de son association. Puis, en fin d'émission, nous retrouverons le musicologue et écrivain Robert Rouret, que vous connaissez déjà. Commençons par Opéra Zur. Mon cher Guy, merci d'avoir répondu présent à mon invitation et la parole est à toi pour nous présenter ton association et éventuellement un programme.
Merci à toi, Christian. Voilà, donc je me nomme Guy Bonfilio à l'italienne. Nous nous connaissons depuis quelques décennies, puisque nous avons partagé la scène. Toi, là, tu étais dans la fosse et moi, j'étais sur scène à l'Opéra de Toulon, très souvent. Nous venons de nous souvenir de quelques productions mémorables, La Bohème.
Entre autres,
voilà. Madame Butterfly, entre autres.
Rigoletto,
voilà. C'était le bon temps.
Tu as bien raison.
Donc voilà, moi j'ai fait ma carrière, et une fois arrivé à la retraite, j'ai décidé de monter une association donc, qui s'appelle Opéra Zur. Non pas pour faire une association de plus, mais pour vraiment aider les jeunes chanteurs et moins jeunes, enfin des passionnés, à être sur scène, puisque j'ai fait beaucoup de mise en scène aussi dans ma vie. Donc tous les spectacles que nous montons, c'est pratiquement 90%, c'est mis en scène, en costume et mis en scène. Donc là, ils arrivent dans un milieu quasiment professionnel, puisqu'on doit répéter, on fait une générale, on fait une pré-générale, une costumière.
Et ça, c'est, pour eux, c'est formidable. Bah, c'est inespéré.
C'est inespéré. Je ne pense pas que dans le 06, peut-être même, on peut élargir jusque dans le 83, on ait des spectacles comme ça, où les jeunes chanteurs et moins jeunes peuvent se trouver comme ça dans le milieu, propulsés à faire des rôles. Alors j'aime l'opérette, comme tu le sais, mais j'aime l'opéra aussi. Donc voilà, on peut... Par exemple, la saison prochaine, on va faire Carmen, avec des chanteurs d'ici. Hein. On va faire La vie parisienne, on va reprendre notre spectacle Offenbach que nous venons de faire à Nice.
Qui a très bien marché. J'avais des amis dans la salle, moi je n'ai pas pu venir, j'aurais bien voulu pour voir certains anciens qui étaient là aussi, mais c'était impossible.
L'idée c'était de faire un vrai spectacle basé sur la dualité d'Offenbach, c'est-à-dire l'Offenbach bouffon. Et l'Offenbach plus rêveur, plus profond des contes d'Hoffmann. Qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Donc on a monté ce spectacle un peu comme ça, dans cette dualité. Donc c'est vrai qu'il a très bien marché. Et le prochain, donc je crois que c'est pour ça que tu m'invites,
oui.
Ce sera le 9 novembre à la Holy Trinity Church à Nice.
Alors où est-ce qu'elle est située cette...
Elle est située dans plein centre, je crois qu'elle est située sur le boulevard, tu me poses une colle, rue Barla, je crois.
Ah, rue Barla.
Mais vraiment, elle est en plein centre.
D'accord.
C'est un très très beau bâtiment qui date de 1866, tu vois, donc c'est vraiment très très beau, avec une acoustique merveilleuse.
C'est l'essentiel, ça.
C'est l'essentiel, ouais. Avec pas mal de place, donc j'espère bien que les gens viennent pour voir un spectacle uniquement autour de la musique allemande.
Bah écoute, ça c'est très très bien.
Je sais que tu vas apprécier.
Oui, j'adore.
Donc avec trois parties, une première partie avec ce que j'appelle les grands anciens. Alors on n'aura pas du baroque, on n'aura pas de Bach, mais on va commencer à Mozart, Schubert, Beethoven, Schumann, avec donc des mélodies, des leads. Et ensuite, une deuxième partie avec du viennois, avec du Léard, Chezinski, c'est un compositeur, tu connais, avec des chansons, c'est plutôt des chansons, mais c'est toujours
de la grande tenue musicale.
Et la troisième partie, qui va faire à peu près 35-40 minutes, autour de la flûte enchantée. Partie 1 et partie 2, ça sera plutôt en format concert, avec peut-être des chanteurs auront la partition, parce que c'est des musiques, tu le sais, très difficiles. Oui. Autant la flûte enchantée, on le mettra en scène et costume, donc voilà.
D'accord, ce sont des extraits.
Par exemple, dans la première partie, on aura de larges extraits du Rosenkavalier.
Waouh.
Ouais, avec donc, le trio final.
Ah, mais dis donc, tu as des gens qui sont... Parce que c'est d'un très grand niveau,
oui,
ça,
vocalement. J'ai des gens. On a Tannhäuser, l'héroïne, c'est...
Elisabeth,
voilà, qui sera chantée par Elisabeth Aubert, qui est une artiste que je connais depuis plus de 20 ans, qui a une voix qui chante Léonore du Trouvert, qui chante les grandes œuvres verdiennes.
D'accord.
Et qui n'avait jamais vraiment chanté de l'allemand. Et je lui ai dit, écoute, Elisabeth, franchement, j'aimerais bien te donner ça.
Elle chante l'air du deuxième acte, les invités, ils disent Hall.
Voilà, exactement.
D'accord.
Et vraiment, ça lui va comme un gant, elle est très contente. Donc, tu vois, si je peux faire découvrir aussi des répertoires à certains chanteurs.
Je crois que je vais venir.
Ouais. Avec plaisir. Oui. Donc voilà, on chante ça, on va et donc le Rosenkavalier, donc c'est le trio, l'air de la présentation de la rose
avec
le duo, avec
Sylvie, donc Sophie,
et voilà, et Octavian,
oh là là.
Qui sera chanté par une vieille connaissance, Alexia Arcolani, que
c'est difficile. Ça.
C'est très difficile.
C'est très difficile.
Peut-être que Frédéric Dichero, qui est un super ténor, je l'ai vu hier, et peut-être qu'il chantera aussi le ténor italien, qui a un air
qui est encore
très
plus,
court,
encore plus difficile,
mais d'une difficulté voilà monstrueuse.
D'accord.
Donc voilà, on va faire des extraits d'Ansel und Gretel,
Humperdinck.
Voilà, Humperdinck, tu sais le réveil avec le marchand de sable, l'endormissement des enfants,
magnifique.
C'est magnifique.
Un conte pour enfants.
C'est très wagnérien, je pense que tu
Ah ben c'était un grand admirateur. Hein,
voilà.
Ah,
ouais.
Ouais.
C'est magnifique. Donc voilà. Et puis bon ben toute ma seconde partie autour de la flûte qui est une œuvre magistrale.
Ça dure combien de temps ton concert à peu près?
Je pense qu'on va être dans les deux heures en trois parties.
De musique, voilà. D'accord. Ouais, ben c'est bien.
Mais on parle entre.
J'imagine.
Ben, tu connais ça toi aussi.
Oui, hein, voilà.
Aussi. Les gens qui parlent entre les morceaux.
Voilà, je présente moi aussi. Mais tu sais, mais c'est très important.
Oui.
D'ailleurs, le public, si tu veux, moi aussi, quand je fais un petit peu ce genre de choses avec Vocalissimo, j'en parle pas beaucoup puisque c'est mon association et je veux pas faire ici ma propre publicité, bien entendu. Mais le retour que j'ai du public, c'est qu'il est indispensable que quelqu'un nous présente. Évidemment, il ne s'agit pas de raconter tout, mais au moins de quoi ça parle. C'est en italien, c'est en français, on voit des gens qui s'aiment, des gens qui s'engueulent comme ça, mais on ne sait pas pourquoi.
Ouais.
Et au moins dire ce qui se passe.
Ouais, voilà.
Ça, il faut le faire. Oui.
Donc voilà, c'est le concert du 9 novembre à Nice, donc à la Holy Church, l'église anglicane de Nice. Et nous finirons notre saison par un opéra que tu dois adorer, Madame Butterfly.
Ah,
voilà, donc ça sera le 13 juin 2026 avec Luca Lombardo qui vient me faire le plaisir de faire Luca. Voilà. Donc,
je l'ai connu du temps où il s'appelait Bernard.
Ben oui, moi aussi.
Mais dis donc,
au conservatoire ensemble.
Tu n'as pas chanté quelque chose de Butterfly avec moi, toi?
Oui. Oui, Yamadori et le commissaire impérial.
Yamadori.
Voilà. Ouais. C'est des bons souvenirs.
Oh, c'est beau ça. Il y a une phrase là de Yamadori.
Ah ben c'est magnifique.
Il lascio il cor pien di cordoglio, ma spero ancora. Oh là là, quel bon temps.
J'étais sûr qu'on finirait par chanter.
Voilà.
D'ailleurs, ce micro.
C'est fait.
Voilà, donc et le 9 mars, le 8 mars, on fait Carmen à Menton. Voilà, ça c'est à Menton. Théâtre à la salle Saint-Exupéry, qui est un joli théâtre, une ancienne église écossaise.
D'accord. Ah, je le connais pas du tout.
Voilà, qui est très joli, en plein centre de Menton. Voilà.
Je sais qu'à Menton, il y a un joli petit théâtre aussi.
Oui, le théâtre de l'Europe.
Voilà.
Une vraie salle
je suis allé une seule fois dans ma vie là-bas faire un concert Mozart, je me souviens. Mm-hmm. Je me souviens d'un théâtre tendu de bleu. Généralement, c'est du rouge qu'il y a dans les théâtres. Tendu de bleu. Tu vois, ça m'a marqué. Ouais.
Le bleu, c'est Clermont-Ferrand qui était tout bleu.
Clermont-Ferrand.
Tu as dû diriger là-bas. Ouais.
Voilà. Ben écoute, mon cher Guy. On a pris note de tout cela.
J'espère.
Absolument.
Moi aussi, j'ai pris note. Hein. Si je ne t'y vois pas...
Écoute, cochon qui s'en dédie.
Voilà, très bien.
Très bien.
Super, je te remercie en tout cas, c'était très agréable.
Mais c'est moi.
Agora Côte d'Azur.
Eh bien, maintenant, donc, après ces bons rendez-vous, j'espère, et bien entendu, le diffuser aussi auprès des mélomanes que je connais dans la région... Et maintenant, nous allons retourner sur les pas de Don Giovanni. Don Giovanni qui fait partie de ces chefs-d'œuvre qui font l'unanimité, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des spécialistes. Le célèbre musicologue et compositeur Henri Barrault le place au sommet de la pyramide lyrique, ainsi que Tristan et Isolde de Wagner, ou encore Péléas et Mélisande de Debussy. Le mythe de Don Juan, l'homme qui défie l'autorité et la religion, trouve son apogée artistique au XVIIe siècle, avec la pièce de Tirso de Molina, El Burlador de Séville. L'homme obsédé par la séduction des femmes et de la liberté absolue. Molière, à son tour, s'emparera du sujet et en fera le festin de Pierre. Mozart, sous l'impulsion de son librettiste, le très talentueux Da Ponte, en fera un opéra en 1787. Opéra créé à Prague, qui tranchera avec les comédies auxquelles Mozart nous avait habitués. En effet, l'opéra sera présenté comme dramma giocoso, c'est-à-dire... drame enjoué, en somme une tragicomédie, avec de surcroît une connotation fantastico-romantique. L'action se déroule à Séville, au XVIIe siècle. L'intrigue suit à peu près la pièce de Tirso de Molina, avec quelques personnages supplémentaires inventés par Da Ponte. Oui, Da Ponte. Don Juan, un aristocrate séduisant auquel aucune femme ne résiste, évolue au milieu de ses conquêtes. Certaines consentantes, comme Elvire, d'autres prises de force, comme Anna. Défendu par son père, le vieux commandeur, Don Juan et lui se battent en duel et le commandeur est tué. Don Juan continue sa vie de débauche, accompagné de son valet Leporello, personnage comique s'il en est. L'aventure se poursuit aussi bien dans les rangs de la noblesse, où le soupirant de Donna Anna, le timoré Don Ottavio, joue le rôle de consolateur, à défaut de celui de vengeur, et aussi bien donc que dans les rangs du bas peuple, où évolue le paysan Mazzetto, qui ne peut rien contre l'influence de Don Juan auprès de la jeune Zerline, sa fiancée. Mais, à la fin de l'opéra, la morale triomphe et surgira de l'au-delà la statue du commandeur tué par Don Juan en duel. Qui a eu l'imprudence, ce Don Juan, il a eu l'imprudence d'inviter à dîner la statue. Et l'aventurier félon sera conduit aux enfers par la statue vengeresse. C'est surtout en cela que Don Giovanni demeure un opéra célébrissime, par ce côté fantastique et par l'aspect philosophique du refus, du repentir au péril de la mort. Tout comme le sera le personnage de Carmen de Bizet, un siècle plus tard, cette femme éprise d'une liberté absolue. Mozart a composé l'ouverture de son opéra la nuit précédant la création.
Ouverture en deux parties. L'une lente et mystérieuse, évoquant le destin tragique du personnage, et l'autre rapide et flamboyante, évoquant la séduction et l'aventure. Écoutons cette ouverture par le Royal House Orchestra sous la baguette de Constantin Trinks. La légende veut que cette ouverture ait été composée dans une taverne. Pourquoi pas ? Dans une taverne, le verre en main, auprès de Daponte, et surtout en galante compagnie. Mais oui, cela est possible. On l'apprend dans une lettre de Constance, la femme de Mozart, qui nous dépeint cette situation un peu incroyable pour nous, mais avec Mozart, tout est possible. Alors, croyons Constance, et puis, si ce n'est pas vrai, eh ben, en tout cas, ça constitue quelque chose qui correspond à l'esprit de la pièce. Puis l'action commence rapidement. Don Juan est en train d'enlever Donna Anna, mais le vieux commandeur vient défendre sa fille. Il sera tué par Don Juan. La musique savante d'un compositeur expérimenté aux scènes impliquant de nombreux personnages est d'une grande qualité. Puis, l'aventurier, suivi de son valet, quitte les lieux tragiques, car il vient de humer, dit-il, une odeur de femme. Mi par di sentir un odore di femmina. En effet, c'est une autre de ses conquêtes qu'il a délaissé il y a bien longtemps, l'ardente Elvire, qui crie elle aussi à la vengeance. Mozart lui compose un premier grand air qui deviendra un trio entre Elvire, Don Juan et Leporello. Elvire est furieuse, elle aime vraiment Don Giovanni, et elle se croyait la seule élue de son cœur. La tragédie redevient vite comédie, car Leporello, le valet, sort un interminable parchemin sur lequel il consigne toutes les conquêtes de son maître. C'est le fameux catalogue qui contient le nom et les catégories, il faut bien parler de catégories, puisque c'est Don Juan lui-même qui en parle, de ses conquêtes. Les porelles, les détails, les différents aspects féminins, les comtesses, les domestiques, les grandes, les petites, les brunes, les blondes, et surtout en Espagne, rien qu'en Espagne, elles sont déjà 1003. Écoutons l'air du catalogue par la basse Ferruccio Fornaletto, que j'ai eu le grand, grand plaisir de diriger dans les grands festivals. Et en plus, c'était un très bon joueur de golf. Il y en a véritablement qui sont doués en tout. Madamina, ecco il catalogo. Petite madame, voici le catalogue des conquêtes de Don Giovanni. Écoutons.
Madamina, il catalogo è questo. Delle belle che a voi padrò mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamania 231, 5 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, son già 1003, 1003, 1003. Van fra queste contadine, cavalieri e cittadine, van contesse e baronesse, Marchisone, principesse e montonne, in ogni grado, in ogni forma, in ogni età, in ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma, in Spagna. Altre queste contarie, cavaliere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e madonne, in ogni grado, in ogni forma, in ogni età, in ogni forma, in ogni forma, in ogni età.
On reste confondu d'admiration devant l'inspiration de Mozart et son métier de portraitiste musical. La pauvre Elvire reste stupéfaite devant le nombre de maîtresses et elle est partagée entre la peine, la jalousie, mais aussi entre un certain sentiment de pitié, car il est évident qu'un tel individu sera puni un jour par la justice divine. La musique qui s'ensuit est sublime et l'on comprend bien que Mozart, qui est mort en 1791, donc à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il est déjà un pré-romantique dans l'esprit, même si la forme musicale demeure typiquement classique, notamment avec des vocalises montantes, descendantes, qui n'ont pour but véritablement que de mettre en valeur la virtuosité de la chanteuse. Témoin d'une esthétique vocale, toujours adepte de cette virtuosité, mais virtuosité musicale, écrite par un génie. Écoutons cet air d'Elvire où se mêlent tant de nuances psychologiques. « Mi tradi quell'alma ingrata ». Écoutons Federica Lombardi.
Thank you.
Annie poursuit sa route, toujours en quête de conquête. Cette fois, il a jeté son dévolu sur une petite paysanne, la jeune Zerline, qui est déjà fiancée à Mazzetto. Don Giovanni, le félon, promet le mariage et au passage, pourquoi pas, rosse le fiancé. Mozart en profite pour condamner le pouvoir de la noblesse sur la domesticité. Comme il l'avait déjà fait dans Les Noces de Figaro, où le barbier devait s'incliner devant le comte Almaviva. L'on n'insistera jamais assez sur les messages politiques délivrés par Mozart, le franc-maçon, dans toutes ses œuvres, éclairées par l'esprit des Lumières françaises du XVIIIe siècle. Écoutons l'une des mélodies les plus célèbres de ce génie. Voilà le duo entre Don Giovanni et Zerline. Là, ci darem la mano. Là, mi dirai d'ici. Là, nous nous donnerons la main. Et là, eh bien, tu me diras oui. Extrait du festival Aix-en-Provence.
Agora Côte d'Azur.
Là, ci darem la mano. Là, mi dirai d'ici. Vedi, non è lontano, pare già venire da qui.
Vorrei, non vorrei, mi tremo un poco il cuore.
Voyons qu'au milieu de sa science musicale extrêmement savante, Mozart savait aussi composer des mélodies quasi-rengaines, enfantines, du genre « Ah, vous dirais-je, maman ?». Ce sont des mélodies qui restent dans l'inconscient collectif et qui ne vieillissent pas. C'est là le secret des grands créateurs. Puis reparaît Donna Anna, toujours à la recherche de celui qui a tué son père, le commandeur, alors que celui-ci cherchait à la protéger des assauts du terrible Don Giovanni. Et elle se confie à son soupirant officiel, Don Ottavio, ténor à la scène. Elle a fini par identifier l'infâme aventurier qui se cachait et qu'elle ne connaissait pas. Et maintenant qu'elle le connaît, eh bien, elle demande à Ottavio de la venger. C'est un air plein de fougue et d'autorité que nous chantera la pauvre Donna Anna. Mais, Don Ottavio n'est pas si courageux, lui.
eh bien, il préfère s'en tenir au réconfort de la belle plutôt que d'affronter véritablement Don Giovanni. Pour l'instant, il se penche plutôt sur lui-même et constate que son propre bonheur dépend du bonheur de la belle Donna Anna. Et il soupire sur son propre sort. Mozart écrit un bel air pour ténor. Écoutons Paul Appleby. Della sua pace, la mia dipende. De sa tranquillité dépend la mienne. Vous voyez, rien que dans le titre, on imagine que ce Don Ottavio n'est pas un baillard, bien entendu. Ce personnage peu téméraire attendra la fête, le bal masqué chez Don Giovanni pour oser affronter le félon en compagnie de Mazzetto, le paysan cocu, mais là aussi sans succès. L'on comprend que dans l'esprit de Mozart, cette noblesse est peu courageuse et qu'il faudra qu'intervienne la divinité en la personne du commandeur ressuscité pour pouvoir punir l'infâme Don Giovanni. Et Don Giovanni continue à organiser des fêtes en sa demeure pour séduire et encore séduire, comme d'ailleurs le faisait le Don Giovanni Tenorio en Espagne et peut-être aussi le Casanova en Italie, ami de Mozart aussi. Maintenant, Mozart a besoin d'un grand moment de brio, de l'une de ses musiques qui déborde de joie et d'énergie. C'est bien entendu le célèbre air du champagne. « Profitons que le vin leur échauffe la tête, ainsi ils oublieront tout ce que je veux faire ». N'oublions pas que Don Giovanni est un grand libertin dans tous les sens du mot, probablement comme l'était Mozart. Il chante la liberté, les femmes, le bon vin, qui sont, dit-il, le soutien de l'humanité. À travers les lignes, l'on comprend que la condition humaine n'est pas chose si facile et que l'humain a tellement besoin de soutien. Alcool, sexe, liberté. Ce dont usera et abusera Mozart lui-même.
La fête est finie. Don Giovanni se remet en route vers d'autres conquêtes. Il va vite se trouver sous le balcon d'une belle. Et mandoline à la main, il se déguise sous les habits de son valet pour ne pas être reconnu. Pendant ce temps, Don Ottavio décide enfin de venger la belle Anna, qui, elle, constate avec un peu de pudeur qu'en réalité, cet infâme Don Giovanni ne lui est pas si indifférent que ça. Mais voyons, il a tué son père, allons. Vengeance oblige. Ottavio part à la recherche de Don Giovanni, qui, lui, est sous les balcons d'une belle et chante une sérénade à la mandoline. Écoutons cette sérénade, devenue célébrissime, par Florian Sanpei. Que Mozart nomme chansonnette, canzonette. Et pendant ce temps, Ottavio et Anna poursuivent chacun leur destinée. Ottavio chante un second air pour ténor, où il recommande à ses domestiques de consoler Anna, pendant que lui, eh bien, il ira à la recherche de Don Giovanni. Et nous approchons maintenant du dénouement. Toujours est-il qu'Anna retarde la date du mariage avec Ottavio. Comment penser à la fête, voyons, alors que son père est mort et qu'il n'a pas été encore vengé ? Et elle chante l'un des plus beaux airs du répertoire, qui se termine par ces curieuses paroles. « Peut-être que le ciel, lui, aura pitié de moi. » Aime-t-elle vraiment ce poltron de Don Ottavio ? A-t-elle compris que seul dans l'esprit de Mozart, eh bien, ça ne peut être que la divinité qui pourra punir l'infâme Don Giovanni ? La justice des hommes est souvent inefficace. Don Giovanni avait invité la statue du commandeur mort à venir dîner chez lui, eh bien, le voici. C'est un moment terrifiant et magnifique, trio rarissime pour deux basses et un baryton. Le commandeur ressuscité donne une dernière chance à Don Giovanni de se repentir. Celui-ci refuse et préfère aller en enfer plutôt que d'obéir. Leporello tremble de peur et un cœur de démon appelle Don Giovanni en enfer, qui, sous la conduite du commandeur, part vers le diable et la damnation. C'est tout simplement sublime. Et la pièce pourrait s'arrêter là, comme le faisait d'ailleurs Mahler quand il dirigeait Don Giovanni à l'Opéra de Vienne. Mais c'est écrit en toutes lettres, nous avons affaire à un dramma giocoso, c'est-à-dire un drame enjoué, un drame joueur. Et Mozart rappelle tous ses personnages pour un final joyeux. C'était un conte, une farce, mais c'est un moment sublime.
Alors, nous l'écouterons plus tard, après mon dernier invité, nous l'écouterons avec la voix sublime de la basse Josef Zelisch, l'une des plus grandes basses wagnériennes actuelles que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger souvent dans Wagner. Josef Zelisch.
Agora, Côte d'Azur.
Maintenant, le moment est venu d'entendre notre ami Rouret, Robert Rouret, le musicologue que vous connaissez, qui est déjà venu nous parler de la langue d'oc, nous parler de Mireille, nous parler de la Provence, des nombreux livres qu'il a écrits, en érudit qu'il est sur cette culture. Mais il est aussi un admirateur inconditionnel du Don Giovanni de Mozart. Eh bien, on va lui donner la parole, mon cher Robert.
Eh bien, je vais essayer de répondre à ton attente. Évidemment, on pourrait parler pendant des heures et des heures de Don Giovanni. Moi, je vais essayer d'insister sur deux points particuliers. D'abord, l'italianité de Don Giovanni. Donc, sur le fait que le livret est en italien. C'était la règle générale dans l'Europe du XVIIIe siècle, tant dans l'opéra seria, l'opéra sérieux que l'opéra bouffe, hein, l'opéra comique, avec toutefois une exception, la France, qui avait créé, à la fin du XVIIe siècle, un genre particulier, la tragédie lyrique, fondée d'ailleurs par un Italien, Lully.
Par qui ?
Lully.
Ah oui, Lully, d'accord.
Lully à l'italienne.
Lully, d'accord.
Lully à la française, avec un grec, évidemment.
D'accord. Bon.
C'est au le 19e siècle qui verra le passage dans pratiquement chaque pays, que l'on verra l'opéra national se créer dans chaque pays. On verra par exemple la naissance d'un opéra russe, d'un opéra polonais, d'un opéra tchèque, etc. Alors le fait que ce soit en italien n'a absolument pas gêné Mozart, qui aimait beaucoup l'italien. Il a séjourné longuement en Italie pendant son adolescence. Il s'est donc tout simplement conformé à l'usage du temps. Il pratiquait l'italien, il parlait couramment l'italien. En plus, c'est son librettiste d'Aponte, qui est d'origine vénitienne, qui avait écrit ce livret. Alors, c'est très important d'insister sur cela parce que les langues ne sont pas interchangeable. Chaque langue est le reflet d'un monde particulier, d'un univers particulier, d'un rapport spécifique au monde. Chaque langue, c'est une musique particulière, chaque langue a son rythme, ses accentuations. Tout le monde sait que l'italien, par exemple, n'a pas du tout la même musique que le français. Les Français ont du mal, d'ailleurs, à percevoir cette musique. On entend très souvent des Osservatore Romano ou des Così fan tutte qui sont terrifiants pour les gens qui aiment, disons, la musique.
Bon. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils n'osent pas prononcer ? C'est quand même pas difficile.
Parce que je crois que les Français n'ont pas tellement de musique. C'est une langue qui n'est pas très accentuée, pas très musicale, d'accord, finalement. Contrairement aux autres langues latines. Et justement, moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque, bon, je suis français, évidemment, je parle français, mais il se trouve que je parle l'occitan sous sa forme provençale, qui était la langue maternelle de mon père, qui était né en 1903. Et chaque fois que je parle, j'ai eu souvent l'occasion de la parler, et les gens me disaient, mais quand tu parles en provençal, on a l'impression que tu changes d'identité, que tu n'es plus le même. Ce qui, évidemment, me procure un sentiment de tristesse, parce que cette langue que j'ai entendue, dans laquelle j'ai baigné étant enfant, dans mon village, je ne l'entends plus quand j'y vais maintenant. C'est comme s'il y avait quelque chose de mort. J'ai l'impression que l'âme de ce pays, de cette terre, ne pourra plus jamais s'exprimer. Les gens parlent français, mais c'est autre chose quand même. Si on disait ça aux Français, je pense à l'heure actuelle, si on leur disait qu'ils ne parleront plus français, qu'ils parleront tous anglais, par exemple, qu'ils seront obligés de parler, je pense qu'ils seraient terriblement malheureux. Eh bien, c'est pourtant le sort de la langue d'oc, de la langue occitane, la langue des troubadours, ouais, la première langue poétique de l'Europe, à la fin du XIe siècle, qui a été traitée de façon scandaleuse, je trouve, par l'État français. Parce que la France s'est construite sur le centralisme, sur le jacobinisme, et il n'y avait donc pas de place pour les cultures, pour les langues autres que la langue française. Voilà, ça c'est une parenthèse sur la langue occitane, mais je crois que c'était important.
Mais donc ça n'était vraiment pas le cas en Allemagne du temps de Mozart, puisque...
Non, mais il y a une différence énorme, c'est que l'Allemagne avait fait son unité linguistique, enfin je veux dire, l'Allemagne est entièrement de langue allemande, c'est-à-dire qu'il y a des dialectes différents, mais... tout le monde est de parler allemand, de langue. Même chose pour l'italien. Pour l'italien. L'allemand et l'italien se sont réalisés comme langue nationale avant que l'État allemand soit créé et avant que l'État italien ne soit créé. En France, c'est le contraire. Il y a un État qui s'est créé d'abord, et comme il y avait des peuples différents, ces peuples, on les a francisés par la force. Alors, il y a beaucoup de gens qui diront « Ah oui, mais c'était une nécessité pour que ces gens se comprennent. » Très bien. Mais en même temps, on a perdu quelque chose. Moi, je sens très bien que j'ai perdu une musique. Voilà. Donc, cette parenthèse, je pense qu'elle est importante, la musique du Provençal.
Bien sûr. L'accent voilà. Tonique sur les mots.
L'accent tonique, tout un vocabulaire. Il y a des choses qui sont intraduisibles d'une langue à l'autre. Et puis une richesse de vocabulaire beaucoup plus grande qu'en français, parce que le français, c'est une langue relativement pauvre. Elle était très riche au XVIe siècle, par exemple à l'époque de Rabelais, et au XVIIe siècle, on l'a volontairement appauvrie. C'est le classicisme. La France est un pays très particulier. C'est donc une langue qui fonctionne avec un vocabulaire relativement pauvre. Alors dans le domaine de... On peut en revenir à Don Giovanni, parce que là, on a perdu un peu le fil de notre pensée. Mais le fait que l'italien donc soit la langue de Don Giovanni est très important, d'autant plus important que le Don Giovanni, le Don Juan, je crois que je vais... essayer de développer tout ça. Le Don Juan, le premier Don Juan, celui de Tirso de Molina, que tu as cité tout à l'heure, donc c'est une pièce de théâtre, c'est un Don Juan espagnol. L'Espagne, c'est pas l'Italie. Hein. C'est quand même une culture différente, c'est une langue différente. Bon. Et c'est un monde différent. Le Don Juan de Tirso de Molina, il séduit les femmes, comme le Don Giovanni italien, mais c'est pas tellement le propos essentiel de la pièce. Le propos, il est religieux. C'est l'Espagne du début du XVIIe siècle, c'est le bras armé de la contre-réforme catholique contre la menace protestante. Bon. Et
Don Carlo plus tard.
Bon, qu'on verra dans Don Carlo de Verdi au XIXe siècle. Et Don Juan, il a fait le pari de séduire beaucoup de femmes pour les tromper. On l'appelle si El Burlador de Sevilla.
Bon, Burlador.
C'est-à-dire qu'il fait pas ça presque pour le, il fait pas ça pour le plaisir.
Et par devoir, tu vas pas me dire.
Il fait ça pour les déshonorer, parce que l'honneur est une vertu essentielle dans la culture espagnole.
Voilà, l'honneur.
Surtout, il veut démontrer. C'est un défi religieux. Il veut démontrer qu'en se repentant, au dernier moment, il échappera à l'enfer. Manque de chance, ça ne lui réussira pas, il ira en enfer. Il sera précipité parce qu'il y a déjà le commandeur dont tu as parlé tout à l'heure qui apparaît. Bon, c'est donc un univers très particulier. C'est un univers tragique, sombre. C'est l'Espagne de l'Inquisition. Bon, je ne vais pas en rajouter parce qu'il y a également quand même de la légèreté, du comique, du bouffe aussi. Mais le Don Giovanni de Da Ponte et de Mozart de la fin du XVIIIe siècle, c'est pas ça du tout. Entre les deux, il y a le Don Juan de Molière.
Le festin de pierre.
Voilà, le festin de pierre, le convive de pierre.
Convive.
Qui date de 1665, donc 35 ans après Tirso de Molina. Alors, il faut dire qu'entre-temps, les Italiens, notamment la les comédiens de la Commedia dell'arte, se sont emparés du thème, mais en le tirant vers le bouffe. Les Espagnols en faisaient un sujet tragique, les Italiens le tirent rapidement vers le côté bouffe, et ça apparaît déjà dans le Don Juan de Molière, avec le personnage de Sganarelle, c'est un nom italien. Mais là aussi, le propos de Molière, c'est pas tellement celui du libertinage amoureux, c'est celui du libertinage philosophique. Molière était sûrement un esprit fort. Bon, il a eu quelques problèmes. Alors, il était protégé par le roi, il n'avait pas eu de problème. Bon, mais le thème essentiel, même si Don Juan courtise les femmes, mais il n'y a pas l'équivalent, par exemple, du duo La Cidarem la Mano de Don Giovanni, ni même la sérénade. On le voit courtiser, lutiner Charlotte, une autre paysanne, mais ça ne va pas très loin. C'est presque le problème philosophique, le problème de l'incroyance. C'est la mise en doute de la croyance religieuse qui est au centre de l'œuvre. C'est le libertinage français donc du XVIIe siècle, libertinage plutôt philosophique qui débouchera au siècle suivant sur les Lumières. Voilà, ce sera la France du XVIIIe siècle, c'est la France de
et avec Voltaire,
de l'esprit philosophique qui ira jusqu'à la négation de la divinité. Chez Voltaire, il y a le déisme mais la France ira très très loin, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution, elle ira pratiquement jusqu'à décréter la fin de la religion, on établira un nouveau calendrier. On partira de l'an 1. Il fallait être gonflé quand même pour faire ça. Bon, c'est vraiment un pays radical, la France, sur ce plan-là. Bon, c'est donc pas si sensuel que cela. La sensualité, on va la trouver, évidemment, chez Leporello et Don Giovanni. Il faut les associer sans arrêt, parce que Mozart, il a bénéficié là d'un livret extraordinaire. Et le de Don Giovanni, il se préoccupe très peu de religion. Je crois qu'il cite une fois le nom de Dieu. Les autres autour de lui, oui, puisqu'ils attendent que le ciel intervienne pour se sauver de la situation. Lui, il s'en fout. Ce qui compte, c'est le plaisir. Il va d'une femme à l'autre. C'est le libertin, mais c'est le libertinage de la Venise de la fin du XVIIIe siècle, où la chasse au plaisir, en fait, est le plaisir essentiel. On se préoccupe très peu de Dieu. D'autant plus qu'à Venise, il faut quand même faire attention. Hein. Bon, il y a Casanova, par exemple, qui a été chassé de Venise, qui a été accusé, justement, d'athéisme. Ce qui ne s'est jamais prétendu être. Voilà. Ça, donc, c'est pour ça que cette italianité de Don Giovanni, elle est très importante à souligner, et elle apparaît surtout dans le personnage de Leporello, que tu as cité tout à l'heure, avec cet air du catalogue où il y a cette énumération. Et là, il faut bien reconnaître que traduit dans une autre langue, ça n'aurait pas la même saveur.
Non, c'est génial. Bon, c'est génial, ce truc.
Tu l'as sûrement entendu, étant donné que tu as dirigé en Allemagne, tu l'as sûrement entendu en allemand.
Ça n'a rien à voir.
Ça ne doit pas faire pareil.
Ça n'a rien à voir.
Moi, je ne l'ai jamais entendu en français, mais ça se faisait couramment en France jusqu'au milieu des années 60.
Tout à fait. Moi, je l'ai fait en français. Je l'ai fait en allemand aussi. Mais effectivement, la langue est particulière. Et il n'y a pas ce comique, cette bouffonnerie qu'apporte la langue italienne.
De verve.
Ça, oui, tout à fait.
Voilà. Oui, il y a un point sur lequel j'étais pas tout à fait d'accord avec toi tout à l'heure. C'est lorsque tu fais de Mozart un précurseur de la Révolution française. Dans Don Giovanni, dans Les Noces de Figaro, le côté politique, il apparaît plus quand même que dans Don Giovanni. Certes, Don Giovanni chante plusieurs fois « Viva la libertà », il le fait répéter d'ailleurs par tous les autres protagonistes, mais à la fin, il ajoute quand même « Viva il buon vino », tu l'as dit d'ailleurs, « Viva il buon vino »,« Vivan le femmine », Viva il bon vino, sostegno e gloria d'umanità. Bon, c'est-à-dire que c'est ça. C'est, bon, il y a guerre de projets politiques derrière tout ça. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, c'était un libertin. Il aimait les femmes, il aimait la bonne chair, etc., etc. Et tu as parlé également de Casanova. Il est à peu près certain que Da Ponte et Mozart ont rencontré Casanova, puisque ça a été créé à Prague. Et Casanova, à ce moment-là, il était bibliothécaire, pas très loin de là. Il était maintenant très vieux, il était retiré des affaires, disons. Et il se consacrait à l'écriture de ses mémoires, en français, hein, ce qui montre que le siècle, c'était un siècle européen. Je suis allé, d'ailleurs, il y a quelques années, visiter ce château, le château de Douchkov, là, bon. Et voilà, donc, je pense que dans Don Giovanni, il n'y a pas d'aspect politique, il n'y a aucun aspect politique, c'est simplement, c'est l'exaltation quand même de la sensualité, du désir, voilà.
D'accord. Alors, écoute, tu sais, justement, là, nous abordons un problème que nous aborderons la prochaine fois, en continuant, justement, sur tous ces aspects philosophico-musicaux, je dirais, de Don Giovanni et de Mozart en particulier, parce que nous pourrons aussi un petit peu comparer avec ce qu'il dit justement dans Les Noces à ce sujet, voir ce qu'il dit aussi dans La Flûte, car il y a aussi une espèce de combat, je dirais, pour non plus la liberté, mais à ce moment-là, pour la connaissance, la vraie connaissance, encore une fois, aux dépens de la religion et de son dogme, bien entendu. Merci, mon cher Robert Rouret, de ton érudition. On poursuivra bien plus avant. Et maintenant, eh bien, nous allons terminer en écoutant Joseph Zelisch nous chanter le commandeur de la fin de ce Don Giovanni. Chers amis auditeurs, merci. Nancy Zottier, mes invités et moi-même vous laissons maintenant en compagnie de la fin tragique de ce Don Giovanni qui va descendre aux enfers. Bonsoir.